France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et l'invité du grand entretien est ce matin sociologue, philosophe des sciences. Ses travaux, notamment sur l'écologie, sont lus, traduits, discutés dans le monde entier. Il publie en cette rentrée de janvier « Mémo sur la nouvelle classe écologique » co-écrit avec le doctorant Nicolai Schulz et publié aux empêcheurs de penser en rond. On va parler d'écologie. Vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application de France Inter. Bonjour Bruno Latour.
Bonjour Monsieur Demorand.
Et bienvenue à notre micro. C'est un texte vif, stimulant, polémique au bon sens du terme. Un texte d'intervention sur l'écologie qui arrive, j'imagine que ça n'est pas un hasard, en pleine campagne présidentielle. Vous destinez ce mémo aux membres des partis écologiques et à leurs électeurs présents et à venir. Ce livre va faire parler, c'est certain. Car vous y dressez le constat au scalpel de la faiblesse de l'écologie politique aujourd'hui et vous y faites le relevé donc de ses impasses. Vous écrivez, par exemple, pour le moment, l'écologie politique réussit l'exploit de paniquer les esprits et de les faire bâiller d'ennui. La phrase claque, Bruno Latour, elle est rude, Yannick Jadot appréciera, ainsi qu'Europe Écologie Les Verts. Mais pourquoi dites-vous cela ?
Non, je pense qu'ils sont tout à fait d'accord.
Ils pourraient signer une phrase pareille.
Ben oui, parce que
on panique et on ennuie.
Ben, c'est le problème, c'est que c'est comme de déplacer, je sais pas, une armoire normande. Vous donnez des grands coups et puis vous essayez, vous faites mal et vous la bougez pas. Et puis il y a un moment, il faut commencer à comprendre pourquoi ça marche pas, pourquoi l'armoire normande ne bouge pas. Et là, il faut commencer à réfléchir un peu autrement et se dire, mais peut-être qu'on peut la démonter ou peut-être qu'on peut la transporter avec une grue, etc. C'est un peu ce que nous essayons de faire là. C'est-à-dire, si on a échoué à ce point-là, comme on voit dans le film dont j'espère que nous parlerons, qui passionne le monde entier, Don't Look Up.
Voilà, je me demandais si vous l'aviez vu, donc réponse oui.
Je l'ai vu deux fois et la deuxième fois, je l'ai beaucoup apprécié parce que c'est aussi une critique assez aussi impitoyable que notre petit mémo. De dire, voilà, finalement, les scientifiques et les écologistes n'arrivent pas à faire bouger les esprits au sens massif. Il y a plein de gens qui font des tas de choses intéressantes, des activistes, etc. Mais les masses que nous sommes, que je représente, on est toujours embarrassés, disons.
Alors, le film, on va y venir dans quelques instants. Entrons dans le livre. L'impasse première, je vais le dire comme ça, l'impasse première de l'écologie, c'est sa volonté d'être consensuelle ou pédagogique. Vous le dites dès le début, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que des gilets jaunes aux paysans indiens, les conflits prolifèrent. Et vous ajoutez, parler de la nature, ce n'est pas signer un traité de paix, c'est reconnaître l'existence d'une multitude de conflits sur tous les sujets possibles de l'existence quotidienne à toutes les échelles et sur tous les continents. Loin d'unifier, la nature divise. Oui. L'écologie, Bruno Latour, c'est donc un espace de conflit, un champ de bataille, des affrontements, c'est
ça ? Je crois que c'est clair que les écologistes sont d'accord avec ça et les partis écologistes se battent beaucoup. Il n'y a pas un sujet sur lequel nous sommes en quelque sorte consensuels. Que ce soit ce que vous mangez, la façon dont vous vous déplacez, les éoliennes, la question de l'eau, les plastiques, etc. Par définition, il n'y a pas que le climat qui soit un sujet de dispute géopolitique. Il y a tous les sujets. Et ça, c'est une particularité de l'écologie que tous les écologistes reconnaissent, mais qu'il faut mettre aussi en avant, sans espérer que parce qu'on parle de questions vertes, disons, brusquement, on va se trouver moralement unifié, politiquement d'accord, etc. Et cette sorte d'état de guerre, c'est triste à dire, mais c'est celui-là qu'il faut souligner. Encore une fois, les écologistes sont d'accord, mais c'est la façon dont on va...
Mais oui, parce que quand on fait de l'écologie politique, vous savez bien que dès qu'un écologiste dit « ça va être dur », on lui rétorque « ah, vous êtes un Khmer vert, vous faites de l'écologie punitive ». Et du coup, vous le critiquez d'ailleurs aussi, on arrive sur des euphémismes type transition écologique. Bref, le conflit n'est pas mis sur la table, il est plutôt émoussé et caché.
Il est caché aussi par des partis disons, libéraux ou illibéraux, qui essaient de se sortir de l'affaire en accusant les écologistes de ne pas de limiter leur droit à jouir, en quelque sorte. Mais c'est évidemment là les écologistes qui ont raison. Le mémo est entièrement pour les écologistes, il ne faut pas se tromper. C'est leur dire, retrouvez votre capacité disons, de vous battre comme les écologistes, comme les socialistes avant, comme les libéraux avant se sont battus contre les autres classes qui les empêchaient de prendre en quelque sorte le pouvoir. Et c'est cette transition dans laquelle on se trouve. À force de dire on va simplement ajouter un peu de vert aux socialistes, il y a un moment il faut se dire la situation est telle que maintenant il faut dire voilà.
On
à l'intérieur des écologistes, il y a les socialistes, mais la question fondamentale, la façon dont on doit définir les questions politiques, c'est maintenant aux écologistes de le faire.
Pourquoi critiquez-vous le concept de décroissance, qui a par exemple été porté par Sandrine Rousseau dans la primaire écologiste? Vous lui opposez étrangement, ou pas d'ailleurs, celui de prospérité. Moi, dans mon esprit, ça n'est pas l'exact inverse, la prospérité, la décroissance?
Il faut prendre les mots qu'on a, hein. Décroissance, c'est pas un slogan très mobilisateur.
Mais oui, mais si vous dites si vous dites qu'il faut assumer les contradictions, aller au conflit, oui, c'est peut-être pas mobilisateur, mais si c'est vrai, après tout.
Et si c'est vrai que c'est pas mobilisateur, ça sert pas à grand chose. C'est ça le problème du film dont on parlait tout à l'heure. C'est justement tout le mémo est là-dessus. C'est précisément de dire, attendez, vous pouvez pas espérer mobiliser sans faire le travail idéologique important que les partis illibéraux et néofascistes font en ce moment, de trouver exactement les termes qui suscitent des affects d'adhésion. Encore une fois, je m'adresse pas aux activistes. Eux, ils font leur boulot formidable. Je m'adresse à nous tous qui regardons ce débat entre écologistes et libéraux et qui ne tournons pas vers les écologistes pour soutenir les mesures qu'il va falloir prendre. Et ces mesures, elles vont forcément être difficiles. Si on dit, si vous ratez la compréhension des affects qui mobilisent les gens quand on leur dit il faut se faire toutes ces transformations énormes dans nos modes de vie, on n'arrivera à rien. Donc c'est exactement ça, à la question précédente, à la fois paniquer et bâiller, c'est que on nous envoie un message qui nous embarrasse. Parce que maintenant tout le monde est conscient de ces questions écologiques. On n'a plus à 5 ans, à 2 ans encore, il fallait faire des efforts, mais on est conscient, mais on ne sait pas quoi faire. Donc il faut trouver les bons termes. Là, il y a un vrai travail de...
Alors lesquels, par exemple?
Prospérité, c'est un admirable terme.
Ça veut dire quoi dans une démarche écologiste?
Il y a 1000 façons. Par exemple, si vous prenez l'agriculture, de ceux qu'on appelle maintenant des paysans à nouveau, qui ne sont plus simplement des agri-businessmen ou de business women, ils cherchent la prospérité, mais pas la prospérité simplement de eux. C'est aussi le paysage, c'est aussi les vivants, c'est aussi l'ensemble de toutes les conditions matérielles autour. Prospérer, c'est un terme admirable. Il n'a pas à être réduit à l'idée de développement absurde qui, dans une seule direction, telle que nous l'avons essayé et telle qu'on essaye encore de nous le vendre, en nous parlant de reprise à l'identique de ce qu'on faisait avant.
Quel autre affect positif mobilisé?
Mais c'est aussi de dépendre. C'est quand même formidable. La question écologique, c'est de s'apercevoir qu'on est en situation de dépendance avec d'autres êtres qui sont les vivants innombrables dont nous profitons de cette existence. Alors évidemment, c'est en contradiction avec les questions d'émancipation et de dire « moi, je me fais tout ce que je veux », etc. Il y a une question absolument essentielle dans le mémo qui est compliquée. Hein. Elle est compliquée parce que c'est plus l'exemple même de cette... liberté d'autonomie en disant on va en avant et on se désintéresse complètement des conséquences de nos actions. C'est exactement le contraire. Ce qu'on voit d'ailleurs dans le Covid comme un petit exemple de la situation. Et donc dépendre, apprendre à dépendre et imaginer une liberté qui soit une liberté de dépendance aux êtres dont nous avons besoin et dont il faut prendre soin, c'est un des affects les plus difficiles à négocier en ce moment, mais absolument essentiel.
Oui, parce qu'on a plutôt jouir sans entrave.
Jouir sans entrave, c'est tout à fait un terme démodé de l'époque du XXe siècle.
Ça, c'est mai 68.
C'est une façon caricaturale, mais oui. Alors que maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entraves, et ces entraves, il faut les rendre positives. Si vous ne les rendez pas positives... De nouveau, on est en situation de panique et d'ennui.
Donc dépendance, par exemple, prospérité. Quel autre concept mobilisateur fécond vous vient à l'esprit?
Je pense qu'il y a quand même un des éléments du mémo qui est drôlement important, c'est de savoir où on est sur Terre. C'est-à-dire que dans la période précédente, au fond, on allait vers une espèce de modernisation générale dont on ne savait pas exactement où elle était. Par exemple, on ne savait pas quelle serait sa température. Est-ce qu'elle serait à 2 degrés, à 3 degrés, à 4 degrés? Personne ne nous a jamais dit, vous vous modernisez, mais vous allez arriver dans un monde qui va être inhabitable. Donc, la notion d'habitabilité, c'est quand même un affect d'une puissance extraordinaire.
Expliquez.
Ben, l'habitabilité, ça veut dire que la question qui intéresse maintenant tout le monde, c'est pas simplement est-ce que vous pouvez produire plus de biens, c'est est-ce que vous pouvez vivre dans un monde habitable. Ce qui est une vieille tradition de gauche, d'ailleurs, des socialistes, qui est maintenant démultipliée par la question écologique. Vivre dans un monde habitable, si vous dites ça aux gens, c'est quand même pas décourageant. C'est exactement ce qu'on voudrait faire. Un monde qui soit agréable et qui soit prospère et qui soit beau à vivre. Toutes ces questions sont des questions dont on est en train de priver les sociétés humaines. Et c'est là où toute la notion de toute la gauche traditionnelle a complètement raison. Et c'est exactement la continuité des débats anciens, tout à fait traditionnels, encore une fois, de la gauche pour maintenir ce qu'on appelait autrefois la vie bonne. Vieille tradition philosophique, une vieille tradition qui est tout à fait puissante. Ça, c'est pas le développement, c'est pas le progrès, c'est quelque chose, une autre question. C'est pas la production, c'est une question est-ce que nous sommes encore capables de rendre la Terre habitable. C'est quand même une question assez mobilisatrice.
Ouais. Mes mots sur la nouvelle classe écologique, le livre en lui-même est un objet très particulier. Objet de ce mémo, comment faire émerger une classe écologique consciente et fière. Expéditeur de Bruno Latour et Nicolas Schulz, date janvier 2022, diffusion, je l'ai dit, membre des partis écologiques et leurs électeurs présents à venir. Qu'est-ce que cette classe écologique? Comment la définir, Bruno Latour?
Ça intègre les classes sociales et c'est tout simplement l'idée que la question de où on est, du territoire qu'on habite, de l'habitabilité de ce territoire devient ou redevient plus exactement la question essentielle. Une vieille question qui avait été un peu oubliée mais que l'écologie reprend. Et l'argument du mémo, parce que c'est un mémo, hein, il a des grandes marches pour que les gens puissent protester voilà. Et dire des tas de choses. C'est pas un essai, c'est un... Voilà, les 74 points, qui, ça serait pas mal de discuter... pour parler de toutes ces questions, qui sont des questions difficiles, parce que c'est une
Mais alors, comment se suscite une classe écologique?
Ben, la classe écologique, elle dit à la classe, aux classes précédentes, disons, celles qu'on appelle libéraux, vous nous avez trompés. Vous nous avez dit que le développement allait continuer. Vous nous avez jamais dit que ce développement allait se trouver dans des circonstances qui rendaient la Terre inhabitable. Vous avez donc trahi, en quelque sorte, par le fait que vous avez passé tout le XXe siècle à nous vendre un développement dont vous savez, ou dont nous savons maintenant, et au fond dont vous saviez, au moins dans les 50 dernières années, qu'il était impossible, c'est quand même une question fondamentale de dire, nous, la classe écologique, nous reprenons la question essentielle du sens de l'histoire. Où est-ce qu'on va? Avec qui on va vivre? Avec qui on peut vivre? Et qui sont les amis et qui sont les adversaires, qui est une question politique quand même assez classique. Et c'est maintenant cette question qui avait été posée avant par la bourgeoisie quand elle a pris le pouvoir dans les deux siècles précédents, nous se pose maintenant. C'est une nouvelle classe qui dit et qui c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'il y a le mot fierté dans le livre qui dit et la question du sens de l'histoire là où on est. Ce qu'on doit faire, quelle est la définition du politique, etc., c'est l'écologie. C'est ça qui rend... C'est le sens du mémo.
Il y a une partie de la jeunesse aujourd'hui qui est la préfiguration de cette classe, Bruno Latour.
Il y a son noyau. Dans les innombrables groupes qui, au fond, sont d'accord avec cette question, puisque un des arguments du mémo, c'est aussi qu'en fait, elle est déjà là, cette classe écologique, elle est déjà presque majoritaire. Il y a cette question qui est bouleversante, surtout pour moi, quand on a des enfants et des petits-enfants, c'est-à-dire que ce soit les jeunes générations qui disent à notre génération et à nos générations précédentes, vous êtes des enfants, vous êtes des adolescents. Il y a une espèce d'inversion du mouvement des générations. Ce sont les jeunes qui disent aux anciens jeunes, à nous, ma génération, mai 68, disons, qui disent, vous êtes des enfants. Vous moquez de nous et vous nous privez de ces questions qui sont devenues des questions fondamentales, c'est-à-dire d'avenir. Donc, il y a une inversion. C'est ça qui est très passionnant dans toutes ces questions écologiques. Il y a un bouleversement complet de toutes les relations, y compris des relations entre générations. Et les jeunes disent, les âges se sont inversés, c'est nous, les jeunes, qui sont grands, et c'est vous, les adultes, qui êtes des ignoramus.
Je l'ai dit, ce livre intervient en pleine campagne électorale et il est dédié, enfin il est diffusé auprès des électeurs présents et à venir. À ce stade de la campagne, les débats les plus vifs portent, Bruno Latour, vous le savez, sur l'identité française, sur l'immigration, sur la sécurité, sur ce qu'on appelle entre guillemets les valeurs. Vous parlez du sol des réactionnaires, SOL, le sol des réactionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ce qui est très intéressant, c'est que comme les libéraux nous ont un peu trahis, disons, il y a une réaction assez normale, c'est que les gens disent, bon ben, si on a été trahis, on va se remettre sur notre précaré, sur les choses qu'on connaît, c'est-à-dire l'identité, c'est vraiment la vision du politique la plus bête qui soit, mais c'est celle sur laquelle on retombe quand on a été abandonné. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sol sur lequel l'extrême droite est évidemment assise, c'est un sol qui n'est pas du tout un sol écologique, c'est un sol sans vivant, c'est un sol des morts. C'est un sol de la tradition, c'est un sol de l'Église avec son cimetière et son clocher, et c'est donc exactement le contraire de ce que du sol, qui est aussi un sol, qui est aussi un territoire, qui est aussi un atterrissage sur un territoire, de l'écologie. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, il y a des aspects et des résonances, quand on parle de territoire, de sol, d'appartenance, etc., avec l'extrême droite, mais c'est pas le même sol. Et on va changer de sol.
Oui, mais pourquoi un sol pèse dans les intentions de vote 35% du côté de l'extrême droite et un autre du côté de l'écologie en pèse 6 ou 7 ?
Pour les raisons que nous avons dites, c'est-à-dire la panique et l'ennui que suscite la transformation et le basculement dans un monde qui est un monde effectivement différent. Parce que le monde des morts et de la tradition et de l'identité, les affects qui sont créés par cet appel, disons, à une tradition complètement rigiqui, disons, sont plus faciles à mettre en place que les choses dont nous parlons, c'est-à-dire la prospérité, l'habitabilité, la dépendance, qui sont évidemment des nouveautés. Ces nouveautés, il faut les travailler. Les affects, il faut les travailler. Mais regardez l'énergie qu'a déployé l'extrême droite pour occuper justement ces 35%. Non, je sais pas, comment vous avez dit 25%.
En agrégeant les intentions de vote.
Ils ont bossé, ils ont travaillé, ils ont fait des clubs, ils ont capté des télévisions, des journaux, etc. Ils ont fait un boulot de travail idéologique. Où est le travail idéologique équivalent des partis écologiques?
Je vous pose la question.
Je ne sais pas, c'est pour ça qu'on écrit notre mémo, elle n'existe pas. Donc, évidemment, comment voulez-vous faire ?
Donc, la bataille des idées a été perdue sans avoir même été menée.
Elle n'est pas perdue du tout. Enfin, elle est perdue peut-être pour cette élection-là, ce cycle électoral. Mais elle n'est pas du tout, évidemment, perdue. Mais il faut la faire. Il faut se dire, la question des idées, la lutte idéologique, c'est quand même une base absolument simplissime de ce que c'est que la lutte politique. Or, l'extrême droite le fait depuis 50 ans. Et on ne peut pas dire que l'écologie le fait avec le même niveau d'énergie. Alors la question, c'est pas du tout les militants, encore une fois, qui font un travail formidable. La question, c'est les masses qui suivraient ou non les décisions difficiles à prendre, les sacrifices qu'il faudrait prendre si l'écologie était au pouvoir. Comment imaginer qu'il y ait derrière 20 millions de Français ou 30 millions de Français, la moitié, disons, qui soient d'accord sur toutes les mesures extrêmement difficiles qu'il va falloir faire pour modifier le système de production dans tous ces détails ? Vous imaginez le travail idéologique qu'il faut faire pour obtenir cette adhésion. Pourquoi est-ce qu'on laisse à l'extrême droite et avant aux libéraux les tâches de production idéologique?
On va passer au standard d'Inter où nous attend Elisa. Bonjour, bienvenue.
Bonjour à tous.
On vous écoute.
Rapidement, la Commission européenne propose de taxer, de classer le fossile, le gaz fossile et l'énergie nucléaire dans les investissements durables, la taxonomie verte. Sans consultation publique, on a l'habitude, ce serait une décision de lobbyiste. Alors, petit rappel, le nucléaire...
Dites-nous vite, parce que le temps presse, Elisa,
oui,
dites-nous vite.
Oui, le nucléaire, ça ne doit pas être très vert, parce que les déchets nucléaires thorium sont radioactifs pour 14 milliards d'années, l'uranium-238, 4,5 milliards d'années, c'est ça qu'on veut nous mettre à bure. Donc, que pense votre invité de cette taxonomie verte de l'énergie nucléaire ?
Merci beaucoup, Elisa. Bruno Latour vous répond.
Je pense pas beaucoup plus que ce que tout le monde pense, c'est-à-dire la question du nucléaire est une question... On a attaché automatiquement à la question verte, c'est-à-dire si vous êtes écolo, vous êtes anti-nucléaire. Il y a plein de questions pratiques de transition qui font qu'on peut aussi dire...
Il y a un retour en grâce du nucléaire dans la campagne électorale.
Oui, il y a évidemment des lobbies, etc. Mais je n'ai pas d'opinion particulièrement informée sur cette question. L'idée d'un compromis pour permettre de faire la transition pendant un certain temps et pas forcément absurde. De toute façon, c'est pas, j'ai rien de particulier à dire, je n'ai aucune autorité particulière pour parler
vous
de cette question.
Vous n'êtes pas une haute autorité nucléaire. Alors, non, on passe au standard à nouveau. Dominique, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour à tous.
On vous écoute.
Voilà, j'aurais affirmé, c'est une question, mais en même temps une opinion. Moi, je pense que inscrire systématiquement et voire même obligatoirement l'écologie dans la constellation de gauche, pour moi, c'est un repoussoir. Parce qu'il y a des millions de personnes, d'ailleurs, comme Bruno Latour, Tour vient de le dire, qui sont de droite, mais qui pour autant sont férus d'écologie.
Bien reçu, Dominique. Bien reçu. On va soumettre votre point de vue à Bruno Latour. Vous dites dans le livre que l'écologie, elle est de gauche et même de gauche au carré. Alors expliquez.
Oui, mais comme
ce que vous voulez dire.
Monsieur a tout à fait raison. Comme il s'agit de faire des nouvelles classes, il est drôlement intéressant d'essayer de voir quelles sont les nouvelles alliances qui permettent de dépasser justement les quelques pourcents qui sont associés pour le moment aux écologistes et à la gauche, hélas, en général, qui est elle-même très, très, très divisée. Donc c'est ça, la question, nous sommes exactement sur la question que pose monsieur, c'est-à-dire les nouvelles classes géopolitiques sont des nouveaux types d'alliances où brusquement quelqu'un qui se pensait de droite se considère, sur des questions en particulier de territoire, d'habitabilité, et même sur des questions tout à fait banales comme les questions de chasse, etc., qui sont des questions où les alliances ne sont pas définies pour toujours. Opposer constamment les chasseurs et les écologistes, c'est complètement ridicule. Il suffit de parler aux chasseurs, il suffit de voir quelques écologistes. Donc c'est exactement la question de monsieur, c'est-à-dire on est dans une période de réorientation, et classe, dans le mémo, veut dire classement. C'est ça le sens original du mot classe. Avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous vous entendez mal. Nous sommes en période de réorganisation et de réorientation. Vous avez des gens que vous aimez bien socialement et vous êtes en désaccord complet quand il s'agit de questions écologiques et inversement. Ben, c'est exactement la question de monsieur.
Alors expliquez-nous pourquoi vous avez vu deux fois ce film Don't Look Up d'Adam McKay, qui est l'un des plus gros succès à ce jour sur Netflix. J'en parlais tout à l'heure dans mon 80 secondes, c'est une comédie catastrophe, un astéroïde arrive, la Terre n'en a plus que pour 6 mois, et bon, qu'est-ce qu'on fait en attendant la catastrophe? Pourquoi ce film vous semble important?
J'aime pas la comète, parce que justement la menace dans laquelle nous sommes, c'est pas une comète, c'est pas si simple. C'est précisément, on est déjà dedans en plus. Mais ce qui est très intéressant, c'est la critique générale de tous les membres, les politiques, les médias, excusez-moi, comme vous, et les scientifiques comme moi. Et donc c'est précisément, je trouve, la beauté du film, c'est que c'est pas simplement les bons contre les méchants, même si c'est une des interprétations de certains de mes amis qui disent, regardez, c'est comme, vraiment, c'est un portrait exact de ce qu'on a fait depuis des années, on crie dans le désert, personne ne nous entend. Sauf que c'est eux qui sont critiqués. C'est eux dont on fait la critique. Aussi bien que la présidente des États-Unis.
Oui, qui est évidemment une forme de Trump au féminin.
L'admirable portrait du capitaliste, qui est vraiment le personnage le plus intéressant du point de vue artistique. C'est un vrai salaud, à la fois innocent, infantile.
Et alors, c'est un film utile, pourquoi?
Parce que je pense qu'il ne fait pas rire. Et c'est très amusant. Moi, j'ai comparé à ma génération, il y a l'équivalent qui est le docteur Folamour, dont on pouvait rire encore à l'époque. Alors que la menace était une menace qui était beaucoup plus réaliste dans le cas du docteur Folamour. Et là, on ne rit pas. Pourquoi on ne rit pas? Parce que c'est quelque chose qui est assez exactement décrit. Tout le monde, au fond, est caricaturé de la même façon. Alors, c'est à la Hollywood, hein, c'est brutal. Ouais. Mais la brutalité, je trouve, est très efficace. Parce que justement, on voit que les deux scientifiques, ils sont exactement comme on décrit dans le mémo, ils paniquent et ils font bâiller. Mais c'est la faute de qui? Ben, c'est aussi, évidemment, la faute de tout le mouvement écologique. Et c'est ça, c'est notre mémo est une façon un peu difficile d'aimer. Nous aimons les écologistes, mais on leur dit, voilà, faut d'abord réfléchir.
Dernière question profonde de Luc, combien de temps nous reste-t-il?
On dit 10 ans, on est dans la 11e année, je crois, moins 11 de l'année 2022. Mais ce n'est pas très exact, parce que c'est la métaphore de l'arrivée d'une comète est très beaucoup trop simpliste. On vivra après ces 11 ans, seulement on vivra mal. Et les sociétés humaines vivront mal, ainsi que beaucoup d'animaux vivront mal ou disparaîtront, et beaucoup d'espèces. Donc C'est une menace qui n'a pas du tout les caractéristiques d'une menace de guerre. C'est une menace qui est beaucoup plus intime, qui est beaucoup plus existentielle, qui est beaucoup plus difficile à saisir. Et c'est ça que des films comme Netflix devraient être capables de montrer.
Merci Bruno Latour. Mémo sur la nouvelle classe écologique aux empêcheurs de penser en rond. Livre parfaitement accessible que vous co-signez avec Nicolas Schulz. Merci beaucoup d'être venu en parler ce matin sur Inter.